Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 8 juin 2026. Nous n'irons pas à la guerre. C'est l'appel lancé par des jeunes en France et au niveau international qui affirment haut et fort leur volonté de s'opposer à cette marche qu'on nous présente comme inéluctable, à cette marche vers la guerre. Voici ce qu'ils disent. Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 4 ans avec son lot de millions de morts et de blessés, que se développent des guerres meurtrières en Afrique, que le génocide se poursuit en Palestine depuis près de 3 ans, que les États-Unis et Israël bombardent sans relâche l'Iran et le Liban, alors que les troupes françaises sont déployées au Moyen-Orient, Macron vient d'annoncer 8 milliards et demi supplémentaires pour financer les munitions au détriment des budgets de l'enseignement, de la santé, des services publics et en particulier de la jeunesse. Macron veut la guerre. Nous jeunes lui répondons, nous n'irons pas. Après avoir mis en place un service national militaire, après avoir multiplié les classes défense sur tout le territoire, après avoir multiplié les offres d'emploi pour l'armée aux jeunes précaires, le 18 mars, Macron, lors de son discours d'annonce du nouveau porte-avions, déclare s'appuyer sur les formations des lycées professionnels et généraux, des universités, des écoles d'ingénieurs, ainsi que sur les secteurs de la recherche et de l'industrie, afin de mobiliser toute la jeunesse du collège au doctorat pour son projet guerrier. Depuis qu'il est au pouvoir, Macron n'a cessé de détruire nos conditions de vie et d'études. Maintenant, il veut nous envoyer à la guerre. Nous, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, répondons non au service militaire. Macron, nous ne voulons pas de ta guerre. Nous n'irons pas. Cet appel me semble extrêmement important et le fait que ces jeunes s'organisent, se regroupent et s'organisent pour s'opposer à cette marche inéluctable, nous dit-on, vers la guerre, pour effectivement montrer qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Cet appel a été bien évidemment lancé avant l'actualité tragique concernant ce dont on parle dans tous les bulletins et à juste titre actuellement, à savoir l'assassinat de la jeune Liana et les conditions et tout ce qu'il y a autour de cet assassinat qui provoque effectivement la réprobation générale. Alors, comme à chaque fois qu'il y a de tragiques événements, les ministres viennent nous dire qu'il faut organiser, que leur priorité, c'est la protection de la jeunesse, qu'il faut, mais qu'il ne faut pas polémiquer. Comment ça, ne pas polémiquer? On apprend ce matin que la France dispose de 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. Et il ne faudrait pas polémiquer sur les moyens? Comment peut-on parler de protection de la jeunesse si, dans le même temps, ce sont par centaines de milliards que sont détournés des fonds vers l'industrie d'armement, alimentant entièrement la marche vers la guerre. La marche à la guerre et la protection de la jeunesse sont incompatibles. Parce que le financement illimité de cette marche vers la guerre a des conséquences très directes pour la jeunesse. Suppression de postes d'enseignants, suppression de toute une série de dispositifs d'aide à la jeunesse, Parcoursup, où de plus en plus les propositions, les filières qui sont proposées à la jeunesse vont être des filières qui vont alimenter, comme le disent les jeunes dans leur appel, la recherche sur le domaine militaire. Quel sort réserve-t-on à notre jeunesse? Quel sort réserve-t-on à l'ensemble de la population? Celui annoncé par devant le Congrès des maires par Mandon, disant que les maires devront se préparer, les maires des communes devront se préparer à aller annoncer aux familles que leur enfant ne reviendra pas de la guerre? Non. Les jeunes ont raison de dire « nous n'irons pas à la guerre ». Alors, je voudrais prolonger cet appel des jeunes par une déclaration que vient de publier la Fédération nationale de la libre pensée, « Marche à la guerre ». L'état d'alerte de sécurité nationale vers un nouveau régime juridique d'exception. Le 19 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire 2024-2030. Ce texte met en musique les recommandations du rapport du 14 juillet 2025 intitulé « Revue nationale stratégique » et les engagements pris par la France lors du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, de juin 2025. Il accroît de 36 milliards d'euros le montant des crédits du ministère des Armées, soit plus 9%, et prévoit de recruter 10 550 militaires de carrière supplémentaire et 29 500 volontaires du service national. Il accélère aussi le réarmement du pays, précise les modalités de mobilisation de la population et se penche sur la singularité militaire. Enfin, il enrichit la panoplie des régimes juridiques d'exception dont l'exécutif de la Ve République dispose, à l'état d'urgence, à l'état de siège et aux mesures que peut prendre le président de la République en cas de crise, pourrait s'ajouter l'état d'alerte de sécurité nationale. Les trois régimes d'exception actuels. L'état d'urgence. En pleine guerre d'indépendance de l'Algérie, la loi du 3 avril 1955 modifiée crée l'état d'urgence. Au terme de son article 1er, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Fin donc de citation de cet article 1er de la loi du 3 avril 1955 modifiée. Le Conseil des ministres prend le décret qui l'instaure pour une durée maximum de 12 jours. À compter du 13e jour, le Parlement fixe sa durée définitive. Voilà donc comment fonctionne l'état d'urgence. L'état d'urgence suspend l'exercice de certaines libertés publiques ou individuelles. Interdiction de manifestations et rassemblements sur la voie publique. Interdiction de réunions publiques. Fermeture de lieux publics ou de cultes. Instauration de périmètres de sécurité. Organisation de perquisitions administratives hors du contrôle du juge judiciaire, réquisition de personnes ou de biens, assignation à résidence et interdiction de séjour, blocage de sites Internet présumés faire l'apologie du terrorisme. En 1955, il est décrété dans les trois départements algériens. En 1958, il est instauré pour 3 mois sur l'ensemble du territoire de la métropole à la suite du coup d'État du 13 mai. Il l'est également du 22 avril 1961 au 31 mai 1963, soit plus de 2 ans après le putsch des généraux d'Alger. Du 8 novembre 2005 au 4 janvier 2006, il concerne 25 départements à la suite des émeutes provoquées par la mort de 2 jeunes gens à Clichy-sous-Bois tentant d'échapper à un contrôle de police. En l'absence pourtant de... citation, péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public ou de calamité publique. Pendant une grande part de la période concernée, il est maintenu en vigueur sur tout le territoire national du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017, soit pratiquement 2 ans sans interruption. Il est levé parce que la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme SILT, du 30 octobre 2017, fait entrer dans le droit commun des mesures propres à l'état d'urgence antérieurement. Enfin, comme moyen de défense du système colonial, il est institué à 2 reprises en Nouvelle-Calédonie, en décembre 1984 et du 15 au 28 mai 2024. Deuxième dispositif, l'état de siège. Au terme de l'article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Fin de citation. Il s'agit d'un régime juridique d'exception, découlant de la loi du 3 avril 1878, aujourd'hui codifiée aux articles L2121-1 à L2121-8 du Code de la Défense. en cas de, citation, péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Fin de citation. Il consiste à transférer dans une zone donnée les pouvoirs de police et l'exercice du maintien de l'ordre de l'autorité civile à l'autorité militaire. Il limite les libertés publiques et individuelles. Des juridictions militaires peuvent être installées pour juger des crimes et délits contre la sûreté de l'État ou ceux portant atteinte à la défense nationale. Elles traitent tous les dossiers qui leur sont confiés, même après la levée de l'état de siège. L'état de siège a existé pour la dernière fois du 1er septembre 1939 au 12 octobre 1945. L'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, donc le troisième dispositif existant actuellement. Au terme de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, je cite, « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. » Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les délais d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à ce sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. » Fin de citation. L'article 16 instaure ainsi une véritable dictature au sens romain. Constitutionnellement, les mesures d'exception à la main du président de la République ne sont soumises à aucune contrainte de durée. Elle dure autant que les pouvoirs publics constitutionnels ne disposent pas de moyens d'accomplir leur mission. Si les deux assemblées se réunissent de plein droit, elles se bornent à regarder se dérouler les événements. Quant au Conseil constitutionnel, il ne peut être saisi qu'au bout d'un mois et n'exerce un contrôle obligatoire de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16 qu'au terme de 60 jours. Enfin, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent à contrôler les décisions prises par le président de la République sur le fondement de l'article 16 qu'il range parmi les actes de gouvernement. Le recours à l'article 16 n'a eu lieu qu'une seule fois, du 23 avril au 29 septembre 1961. Le projet d'État d'alerte de sécurité nationale, donc c'est le nouveau projet qui serait proposé. Le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire 2024-2030, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 mai dernier et examiné par le Sénat le 2 juin 2026, introduit dans le Code de la Défense un titre 4 bis relatif à un quatrième régime juridique d'exception, l'état d'alerte de sécurité nationale. Il comprend 8 articles et des dispositions modificatives du Code des postes et télécommunications. Sans préjudice des allègements de procédures en matière de marché public, de défense ou de sécurité. Le texte fixe les conditions d'instauration de cet état d'alerte, énonce les mesures discrétionnaires susceptibles d'être prises par le gouvernement durant sa mise en œuvre et énumère les domaines dans lesquels les dérogations aux droits actuellement applicables pourraient intervenir à l'initiative des services de l'État et, le cas échéant, des collectivités territoriales pendant cette période. Il ne s'agit donc pas tant d'un instrument supplémentaire visant à limiter les libertés publiques et individuelles que d'un dispositif de suspension des garanties offertes par des pans entiers de la législation et de la réglementation. Les conditions de mise en œuvre de l'état d'alerte de sécurité nationale. Le futur article L2143-1 du Code de la Défense donnerait au Conseil des ministres le pouvoir, citation, sur tout ou partie du territoire national, de déclarer par décret l'état d'alerte de sécurité nationale en cas de menace grave et actuelle résultant de l'une des trois situations suivantes : atteinte à la continuité des activités essentielles à la vie de la nation et à la protection de la population, mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et des formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi. Concrètement, ce nouveau régime juridique d'exception pourrait s'appliquer non seulement en cas de préparation à la guerre, mais également d'événements extérieurs de nature à perturber le fonctionnement habituel du pays. Par exemple, une épidémie grave ou une altération profonde de systèmes d'information essentiels pourraient constituer des motifs d'instauration de l'état d'alerte de sécurité nationale. Au terme de l'article L2143-8 du projet de titre 4 bis du Code de la Défense, le Parlement ne détiendrait, durant l'état d'alerte de sécurité nationale, qu'un droit d'information en vue d'un contrôle probablement a posteriori et d'une évaluation des mesures prises par le gouvernement. Les garde-fous seraient limités, voire totalement absents, même si le projet de loi de programmation militaire précise que les dérogations envisagées devraient être strictement proportionnées aux objectifs poursuivis. En particulier, seraient suspendues les obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires, les formalités en matière de construction et d'urbanisme, les études préalables en matière d'environnement ou les dispositions ayant trait aux compensations à prévoir lorsque sont menacées des espèces protégées ou leur habitat. Conclusion. En lui-même, l'état d'alerte de sécurité nationale constitue donc une mise en situation de guerre du pays, comportant des mesures discrétionnaires et une suspension pendant 2 mois des protections juridiques des biens, des personnes et du cadre de vie dans de nombreux domaines. À lui seul, il paraît inquiétant, notamment parce que le contrôle du décret instaurant cet état d'exception serait au mieux limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation, au pire inexistant. Par ailleurs, rien n'interdirait à ce stade à un gouvernement de combiner en particulier l'état d'urgence au titre d'un péril imminent d'atteindre à l'ordre public et l'état d'alerte de sécurité nationale. La convocation de puissantes manifestations d'hostilité à la guerre, à la veille d'une opération militaire menée sur le fondement des engagements internationaux de la France, en application par exemple de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord de 1949, pourrait justifier la mise en œuvre des 2 régimes d'exception. Les mesures discrétionnaires et la suspension de pans entiers du droit s'ajouteraient à la restriction des libertés publiques et individuelles, non à la marche à la guerre, défense de toutes les libertés démocratiques. Voilà, cette analyse donc de ce projet a été faite par Dominique Gousseau, qui est responsable de la commission Droit et laïcité de la Fédération nationale de la libre pensée. Alors, je vous propose maintenant, avant d'en venir au choix musical que je vous proposerai tout à l'heure et qui est tout à fait en relation avec ce que je viens de vous lire, les deux domaines, les deux articles que je viens de vous lire, c'est-à-dire l'appel de la jeunesse, nous n'irons pas à la guerre, et la déclaration et l'analyse de la Fédération nationale libre pensée donc sur le projet d'état d'alerte de sécurité nationale. Je vais vous lire un communiqué concernant la Kanaky, échec cuisant du gouvernement. C'est un communiqué du Comité international contre la répression et donc qui s'appuie sur ce dont vous avez peut-être entendu parler lors des bulletins d'information. Les juges ordonnent l'abandon des poursuites contre Christian Théhain et ses camarades. Le parquet, c'est-à-dire l'État colonial français, décide immédiatement de faire appel de ses décisions. Vigilance. Le Comité international contre la répression a pris connaissance du non-lieu général ordonné par les magistrats parisiens en faveur des 14 militants kanaks de la CCAT accusés jusqu'alors d'être les instigateurs et responsables des mobilisations et des événements qui ont secoué l'archipel en mai 2024. Le CICR se félicite de ce non-lieu général qui constitue un camouflet pour le gouvernement. Rappelons que le parquet de Nouméa avait décidé ce qui s'apparente à un véritable kidnapping. Christian Théhain, responsable de la CCAT et ses camarades, ont été enlevés, menottés, transportés dans un avion à 17 000 km de leur foyer et sont restés emprisonnés pendant près d'un an dans un système s'apparentant au secret. L'ordonnance des juges parisiens, de 253 pages, estime qu'il ne résulte pas d'informations judiciaires et de charges suffisantes contre les intéressés. On est loin des déclarations mensongères et diffamatoires du haut commissaire de la République en Kanaky, d'accusations de, citation, « de voyous qui se livrent à des actes de violence caractérisés avec la volonté de tuer », ou bien du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de l'époque, Gérald Darmanin, actuel ministre de la Justice, parlant des militants de la CCAT comme d'un groupe mafieux. Cette décision constitue un échec cuisant pour l'État colonial et ses affidés qui ont cherché et continueront à criminaliser le mouvement indépendantiste kanak et, au-delà, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme qui résistent, qui refusent le génocide perpétré contre le peuple palestinien en particulier. Le Comité international contre la répression tient à remercier particulièrement les centaines de militants et organisations démocratiques qui, à travers le monde, ont répondu, en particulier durant les mois de mai et juin 2024, à son appel pour la défense des militants kanak. Il salue Christian Théin et ses camarades et les assure de son soutien aujourd'hui comme demain. En effet, le parquet de Paris, c'est-à-dire le sommet de l'État colonial français, vient de faire appel de la décision de non-lieu des juges et estimant qu'il reste des actes d'investigation à mener. Qu'est-ce donc, sinon une nouvelle provocation contre les militants ? Le Comité international contre la répression appelle à la vigilance et à la protection des militants de la CCAT, de Christian Théin et de ses camarades. Non à la répression. Bas les pattes devant le peuple kanak. Vive la solidarité internationale. Pour le droit du peuple kanak à disposer de son avenir, droit imprescriptible qui n'appartient qu'à lui. Et donc c'est signé Gérard Beauvert, journaliste honoraire, président d'honneur du Comité international contre la répression, Gérald Fromager, syndicaliste, président du Comité international contre la répression, et Miguel Martinez, enseignant-chercheur, secrétaire du Comité international contre la répression. Voilà, donc nous en arrivons maintenant au moment du choix musical que je vous propose directement en relation avec l'analyse que je vous ai lue donc, sur ce projet du gouvernement d'état d'alerte de sécurité nationale, l'analyse donc, de Dominique Bousseau que je vous ai lue et que vous retrouverez bien évidemment sur les différentes publications de la Libre Pensée et en particulier sur le site de la Fédération Nationale, fnlp.fr. Et donc je vous propose d'écouter « Le déserteur » de Maurice Vian et par Maurice Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Thank you. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Voilà, on ne se lasse pas d'écouter cette chanson et effectivement, elle nous relie directement au combat de la jeunesse et au combat qui avait été mené pour obtenir le statut d'objecteur de conscience et que défend avec acharnement la libre pensée. Alors je voudrais profiter des quelques instants qui nous restent pour vous signaler les différentes initiatives qui sont prises pour, en relation avec le grand meeting international contre la guerre qui se tiendra le 20 juin prochain à Londres, avec une écoute collective là, qui sera organisée proche de Périgueux. J'en parlerai, je pense, plus précisément lundi prochain. Et puis une autre initiative qui, elle, va se tenir à Sarlat, et ce sera le 30 juin, une soirée ciné-débat avec, donc comme film introduisant le débat, le film de Stanley Kubrick, « Les sentiers de la gloire ». Et ensuite, un débat qui sera organisé avec le public et dans lequel interviendra notre camarade et ami Pierre Roy, historien. Pierre Roy, c'est notre ami qui a, avec son épouse Danielle, sillonné le pays pour écrire, pour constituer ce formidable ouvrage sur les monuments pacifistes qui existent en France. Et les monuments qui ne sont pas les monuments guerriers, c'est toute l'histoire, de l'après-guerre de 1914-1918, qui rejoint le combat pour les fusillés pour l'exemple, hein, pour reconnaître les fusillés pour l'exemple, ce qui n'est toujours pas fait par la France. Et donc, cette soirée, ce sera à Sarlat le 30 juin prochain. Je vous donnerai également dans les prochaines chroniques les détails pour que vous puissiez, pour ceux qui s'y intéressent, vous rendre donc à cette soirée à Sarlat le 30 juin prochain. Voilà, donc nous en avons terminé avec cette chronique du groupe Fretzeller. Je remercie Antoine pour sa grande qualité de technicien pour assurer à nos auditeurs une qualité d'écoute incroyable. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fretzeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fretzeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi
11h30.